Vous écoutez RFI, Radio France Internationale. Il est maintenant 6h30 à Paris, 4h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et pour l'actualité africaine d'un RFI Matin, vous êtes avec Alexis Guilleux. Bonjour Alexis.
Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Les élèves de Kalemie privés de cours dans l'est de la République démocratique du Congo, la ville est en première ligne face à la montée des eaux du lac Tanganyika. De nombreuses écoles sont inondées. Toujours en RDC, le retrait de la MONUSCO du Nord Kivu est-il possible? La mission de l'ONU a officiellement terminé son action au Sud Kivu cette semaine, mais la situation sécuritaire dans la province voisine laisse planer le doute alors que les casques bleus doivent partir au second semestre. Au sommaire également l'arrivée au Rwanda d'un migrant expulsé du Royaume-Uni, non pas dans le cadre du partenariat controversé adopté par Londres la semaine dernière, mais d'un programme de volontariat. Et puis une région délaissée par les candidats à la présidentielle tchadienne à 4 jours du scrutin. Aucun des 10 prétendants ne s'est rendu dans le nord du pays à la rencontre des électeurs. L'Afrique de l'Est sous les eaux, cela fait plusieurs semaines que des pluies diluviennes tombent sur la région, des précipitations aggravées par le phénomène El Niño. Il y a des dizaines de morts en Tanzanie et au Kenya, des milliers de déplacés au Burundi et en RDC. C'est d'ailleurs sur les rives du lac Tanganyika, côté congolais, que nous partons. À Kalemie, les écoles sont inondées, certaines se sont écroulées. 35 000 enfants sont donc privés de cours à quelques semaines de la fin de l'année scolaire. Reportage de Denise Maillot.
L'institut NEMA de Kalemie est attaqué par des vagues du lac Tanganyika. Les salles de classe sont inaccessibles. Le directeur de l'école, Rémi Nkoulou, est très préoccupé.
Nous sommes en train de sortir les tables pour déménager. Il n'y a pas moyen. Nous avons des bancs ici que vous voyez. Et tout le bien des élèves, nous sommes en train de les évacuer. Nous attendons maintenant un camion qui va venir prendre toutes ces histoires.
Ibrahim Kaïko doit passer son bac au mois de juin. Il ne cache pas sa colère.
Je me demandais si notre gouvernement voyait cette situation ou pas. Parce que nous sommes des élèves finalistes. Là, on n'a pas encore terminé les programmes.
Un peu plus loin, des dizaines d'autres élèves de l'école Athénée du Lac sont dehors. Les quelques salles de classe encore debout sont envahies par l'eau. D'autres sont déjà englouties. Cette catastrophe touche plusieurs écoles, déclare Nicolas Prince Baeleaï, responsable de l'éducation dans la province du Tanganyika.
Nous avons répertorié environ 85 écoles affectées où vraiment l'année scolaire pour ces enfants-là est perturbée pour un effectif de 35 000 enfants affectés. Et cela nous préoccupe énormément.
Cette autorité de l'enseignement a donné l'ordre au directeur des écoles sinistrées de trouver des structures d'accueil pour ses élèves afin qu'ils achèvent le programme scolaire. Denise Maillot, Kalemie, RFI.
Les pluies et les inondations dans la région qui touchent toutes les couches de la population. Au Kenya, la Croix-Rouge a dû secourir une centaine de touristes, notamment par voie aérienne, dans la réserve du Masai Mara, destination prisée des amateurs de safari. Le ministre kényan du tourisme demande à tous les hôtels et campements des parcs nationaux de se préparer à des évacuations potentielles. Retour en RDC où la MONUSCO a officiellement terminé sa mission au sud Kivu, la force onusienne a acté son retrait de la province conformément au plan de désengagement conclu avec Kinshasa. Alors sur le terrain, la mission va poursuivre jusqu'à fin juin le démantèlement de ses bases et le rapatriement de ses effectifs. La prochaine étape, c'est le retrait du Nord Kivu, mais au vu de la situation sécuritaire sur place, cela s'annonce plus difficile, Pauline Azidi.
Ce retrait annoncé de la MONUSCO du Nord Kivu en plein conflit avec le M23 est complexe. Difficile de quitter un terrain sécuritaire dégradé qui a entraîné une importante crise humanitaire avec 1 million de déplacés pour les seuls environs de la ville de Goma. Dans cette phase, qui doit se dérouler au second semestre de cette année, il est prévu notamment que la brigade d'intervention de la MONUSCO reste mobilisée pour conserver une capacité de protection des civils. Ça va être difficile de l'enclencher tout de suite, vu le contexte de mobilisation des acteurs armés, prévient une source sécuritaire. Un rapport à l'attention du Conseil de sécurité des Nations Unies est annoncé pour le mois de juin. Les membres du Conseil auront alors toute latitude pour se décider sur la suite de ce retrait, ajoute notre interlocuteur. Aujourd'hui, impossible d'être catégorique sur une date de départ totale de la mission onusienne du pays. Kinshasa souhaite toujours que le retrait soit complet à la fin de cette année 2024, alors que le Conseil de sécurité n'a, lui, pas fixé d'échéance.
Le Nord Kivu, justement, au Rubaya, est passé sous le contrôle des rebelles du M23, selon des sources locales citées par l'agence France-Presse. Nous avons quitté la ville mardi après-midi, explique par exemple un responsable de la police. Cette cité se trouve à une quarantaine de kilomètres de Goma. Elle est convoitée pour ses mines de coltan. Si le Rwanda avait des troupes en RDC, qu'irait-il faire là-bas ? Réaction du Rwanda au propos d'Emmanuel Macron. Mardi, le président français a exhorté Kigali de cesser tout soutien au M23 et retirer ses forces de l'Est de la RDC. Déclaration à l'occasion de la visite officielle de Félix Tshisekedi en France. Ces accusations ne prennent en compte qu'une partie du problème, explique le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Le problème est entre Congolais pour Alain Mukuralinda qui pointe la présence de plus d'une centaine de groupes rebelles dans cette région. Le Rwanda, où est arrivé mardi un migrant en provenance du Royaume-Uni, une expulsion volontaire. L'homme en question a reçu un paiement en échange, une somme pouvant aller jusqu'à 3000 livres sterling. Alors cette expulsion n'entre pas dans le cadre de la loi controversée votée le mois dernier par le Parlement britannique. Il s'agit là d'un autre programme sur la base du volontariat. Explication de Lucie Mouillot.
Selon le gouvernement rwandais, cette première arrivée d'un migrant en provenance du Royaume-Uni concerne un homme d'origine africaine dont la demande d'asile a été rejetée en fin d'année dernière par les autorités britanniques. Une relocalisation volontaire dans le cadre d'un programme annoncé en mars pour donner la possibilité aux migrants déboutés par Londres de choisir entre être renvoyés dans leur pays d'origine ou réinstallés à Kigali avec une aide de près de 3500 euros. Un programme différent du traité migratoire signé entre les deux pays, l'accord controversé, dénoncé par plusieurs associations de défense des droits humains, prévoit l'expulsion vers le Rwanda sans étude préalable de leur demande d'asile sur le territoire britannique de migrants entrés illégalement au Royaume-Uni. Après l'adoption la semaine dernière à Londres du projet de loi encadrant cet accord, les premiers avions sont attendus d'ici 2 à 3 mois, selon les autorités rwandaises. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et par ailleurs, pour la première fois au Royaume-Uni, des migrants en situation irrégulière ont été arrêtés et placés en détention en vue d'une expulsion vers le Rwanda. Ces arrestations entrent là dans le cadre du traité migratoire avec Kigali. Londres veut expulser 5700 personnes d'ici la fin de l'année. Je rajoute que 66 migrants ont été secourus par la France hier dans la Manche. Une embarcation en difficulté se trouvait au large de Dieppe. 3 personnes soupçonnées d'être des passeurs ont été arrêtés. Plus que 3 jours de campagne au Tchad avant la présidentielle de lundi, les 10 candidats poursuivent donc les meetings au contact de la population. Le scrutin de lundi doit tourner la page de 3 ans de transition. Un pays parcouru donc d'ouest en est par les prétendants à la présidence. Mais une région fait figure de grand oublié selon de nombreux observateurs. Aucun des 10 candidats ne s'est rendu dans le nord du pays, région désertique hostile, mais aussi terreau des rébellions tchadiennes. Ezra Sindikoumana.
Cet immense territoire désertique qui s'étend pratiquement sur la moitié de la superficie du Tchad compte à peine 205 000 électeurs, c'est-à-dire 2,5% des Tchadiens en âge de voter recensés par l'ANJ, l'agence chargée d'organiser les élections. En plus de ça, pointe le chercheur Omadji Oinati, c'est une zone difficile d'accès, il faut absolument y aller en avion, et c'est aussi un endroit où la situation sécuritaire est plutôt volatile. Un autre chercheur parle d'un no man's land. Mais pour Omadji Oinati, les candidats à la présidentielle de 2024 ont commis une erreur en ne faisant pas campagne dans cette partie du Tchad qui est très importante politiquement. Toutes les rébellions qui ont pris le pouvoir en N'Djamena depuis 1979 jusqu'à ce jour proviennent de cette région et les candidats se devaient de maintenir un lien avec un territoire qui a longtemps été marginalisé, explique-t-il. Mais ils ont décidé d'oublier le nord du pays qu'ils considèrent comme acquis au président de transition, un enfant de cette région, le Tchad ayant une longue tradition de vote identitaire, rappelle le chercheur. Seules exceptions, le candidat Mahamat Idriss Déby a envoyé son fidèle chef de cabinet Youssouf Boy faire sa campagne à Faya Largeau dans le Borku. Le premier ministre de transition Succès Massra avait prévu de tenir un meeting dans cette même ville hier. Il y a finalement renoncé, officiellement parce que l'avion qu'il avait loué est devenu tout à coup indisponible. Ezra Sindikoumana, N'Djamena, RFI.
Des réactions après l'émission d'un mandat d'arrêt international contre François Bozizé, l'ancien président de la Centrafrique est visé par la Cour pénale spéciale pour de présumés crimes contre l'humanité commis entre 2009 et 2013 dans un centre de détention devenu une prison politique en Centrafrique. Amnesty International y voit une étape encourageante dans la lutte contre l'impunité. La Ligue centrafricaine des droits de l'homme appelle la Cour à poursuivre tous les dossiers et pas seulement les cas les plus médiatiques. Ce mandat d'arrêt contre François Bozizé, vous en parlez tout à l'heure dans Appel sur l'actualité. Que pensez-vous de cette procédure ? Juan Gomez vous attend à 10h10. Heure de Paris. C'est un bras de fer qui se poursuit entre le Soudan du Sud et les Nations Unies à propos de taxes sur l'aide humanitaire. Djouba est à la recherche de fonds pour se financer et a perdu une manne financière importante avec l'arrêt de ses exportations de pétrole à cause de la guerre au Soudan. Djouba a donc imposé des taxes aux acteurs humanitaires. La situation reste bloquée malgré des rencontres entre des responsables onusiens et sud-soudanais. Marie-Hélène McGroarty, représentante du PAM dans le pays, déplore une situation qui conduit l'organisation à limiter ses opérations.
Au cours des deux derniers mois, nous avons constaté la mise en place de 6 nouvelles taxes, que ce soit sur les marchandises ou sur le carburant importé par l'ONU. Cela a des conséquences énormes en termes de coûts et c'est contraire aux principes et conventions de l'assistance humanitaire. Ces mesures conduisent à l'augmentation du coût des opérations et donc à la diminution de l'aide acheminée jusqu'à ceux qui en ont besoin. Pour le PAM, ces frais s'élèvent à plus de 360 000 dollars par mois. Cela équivaut à 16 500 personnes que nous ne pourrons plus soutenir. Donc, actuellement, le carburant pour le PAM n'arrive plus dans le pays. Cela a un impact très lourd sur nos opérations. Nous avons déjà dû suspendre des largages d'aide alimentaire pour des populations en grave insécurité alimentaire dans les zones les plus reculées du pays. Cela a déjà touché 60 000 personnes et ce nombre va s'élever à 145 000 si le problème n'est pas résolu rapidement. Beaucoup de ces personnes privées d'aide sont des rapatriés de la guerre au Soudan.
La représentante du programme alimentaire mondial au Soudan du Sud, jointe par Florence Mietto. Florence Mietto que l'on retrouvera ce soir sur RFI pour son grand reportage sur les ravages du mystérieux syndrome du hochement de tête. Syndrome qui touche des milliers d'enfants dans la région. Rendez-vous 19h40, temps universel. Pour l'heure, RFI Matin se poursuit avec Arnaud Pontus.
Merci à vous Alexis Guilleux. D'ailleurs, on écoute tout à l'heure un extrait de ce grand reportage ensemble dans un peu plus d'une heure sur RFI.